ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Marc Bradfer, merci monsieur d'être venu. Vous êtes directeur éditorial, né en 1959 à Toulouse. Et vous venez nous parler de votre foi, de vos convictions et de votre engagement dans votre métier.
Merci Benoît Petit et merci à Radio Présence de cette invitation.
Nous nous étions rencontrés dernièrement, indépendamment de la lecture de votre livre, lors d'un colloque du service Incroyance et foi, où il y avait entre autres Monseigneur Pontier. C'était sur la gouvernance dans l'Église et dans la société, avec également un représentant politique d'Archipel. Et le débat portait sur les structures de l'Église et... donc. C'est quelque chose qui vous importe et que vous retrouvez dans les livres que vous contribuez à publier.
Oui, il y a toujours aujourd'hui une contestation du pouvoir, une relecture de son efficacité en tout cas, et de ce qu'il incarne. Ce qui m'apparaissait important et historiquement marqué dans l'Église, c'est que son pouvoir ne vient pas d'elle, elle vient d'un Dieu qui descend sur terre, et l'Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est-à-dire qu'on retrouve dans l'Église la structure même de la croix, la verticalité, par la transcendance, mais le partage à égalité d'un Dieu incarné qui se fait homme parmi les hommes, enfant parmi les autres enfants, et qu'il va subir toutes les grandes étapes de la vie humaine, de la naissance bien sûr, jusqu'à la mort. Et donc, il y a cette horizontalité d'un Dieu parmi nous, homme parmi les hommes. Il y a donc cette structure horizontale qui va finalement compléter la structure verticale qu'incarne l'Église. Et finalement, le Concile Vatican II, dans l'esprit aussi de la liberté, la grande liberté de conscience reconnue à chaque être humain et bien sûr à chaque baptisé, chacun fait partie du peuple de Dieu, appelé à rejoindre dans l'unité absolue la divinité elle-même. Et donc, il y aura toujours ce dialogue permanent et cette dialectique, sinon parfois cette opposition entre la verticalité et l'horizontalité des hommes et la transcendance d'un Dieu, mais d'un Dieu qui descend jusqu'à nous et qui s'abaisse jusqu'à notre humanité pour participer à notre salut.
Et qui nous parle à travers alors, les évangiles, les actes des apôtres, mais qui ont été écrits 40 ou 80 ans après la mort de Jésus. C'est sa question de la résurrection.
Bien sûr. Alors, c'est un Dieu qui nous parle. Le nom parole vient du grec parabolos, qu'on retrouve d'ailleurs les paraboles de Jésus dans l'Évangile, et la parole finalement qui est transmise aussi par la culture, par l'esprit, depuis la nuit des temps. C'est une cellule vivante, la parole, avec ses changements, ses trous aussi, ses absences, ses doutes et ses affirmations, bien sûr, et ses erreurs. Mais cette parole finalement, là aussi, elle vient finalement d'une verticalité, elle vient de nos parents, de nos aïeux, de nos maîtres d'école et de toutes les générations qui nous ont précédés. Et elle se diffuse aussi à l'horizontalité, même à l'instant avec vous et avec vos auditeurs. Donc la parole incarne aussi ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'avant et qui va au-delà d'un présent que nous partageons les uns les autres.
Oui, mais alors il faut l'interpréter cette parole. Or, se pose tout de suite cette question des lectures historico-critiques ou des lectures symboliques et donc des conflits entre les croyants, les non-croyants, des chrétiens et les autres qui vont lire la Bible tout simplement comme une expression d'une certaine sagesse.
C'est déjà pas mal que ce soit l'expression d'une certaine sagesse.
Historique,
bien entendu. Il n'y a pas de grands textes, quels que soient leurs auteurs ou leur contenu, qui ne traversent les siècles sans apporter quelques leçons ou quelques éclairages sur le passé et sur le moment où ces textes sont apparus ou ont été écrits. En ce qui concerne, en tout cas la Bible, en ce qui concerne le Nouveau Testament, pour le christianisme, plus qu'une sagesse, c'est une grande parole d'amour. Qu'il y ait de la sagesse dans les évangiles, c'est le moins qu'on puisse penser. Mais c'est une sagesse qui est remplie d'allégresse, de sollicitude et de bienveillance pour le prochain, qui est aussi notre salut. Et donc l'amour doit être posé au-dessus de la sagesse, et l'amour contient la sagesse, la grande sagesse.
Alors, en cette période de troubles, d'épidémie, de pandémie, le salut, c'est la croyance, l'espérance que tout ne peut pas disparaître à cause d'un virus qui nous contamine.
Bien entendu, je pourrais dire tout de même que il est bien possible que dans l'histoire, en tout cas contemporaine, la mort venue de la volonté des hommes et susciter bien plus de drames et de tragédies que la nature qui, tout de même, a été domptée par la science, par les vaccins, par la biologie, etc., etc. Donc, n'allons pas condamner une nature plus ancienne que la nature humaine, n'allons pas la charger de tous les fléaux dont nous serions victimes nous-mêmes, alors que par notre propre volonté, et notre propre arbitre, le XXe siècle a été un des plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Donc, n'allons pas accabler ce virus, ne lui faisons pas porter la croix de tous nos maux.
Tout à l'heure, on parlait des conflits à l'intérieur des religions. On ne peut pas ne pas évoquer cette question. Vous parliez du peuple de Dieu, Église, peuple de Dieu. Mais si je reprends cette expression, j'ai fait de vous un peuple et des prêtres, ou bien j'ai fait de vous un peuple de prêtres. Déjà là, il y a la question qui taraudait Luther ce sacerdoce universel, ou bien chaque baptisé est porteur d'une image, il a été choisi, il appartient à une église. Mais en même temps, vous avez les baptistes, les anabaptistes, et tout de suite, donc, se pose la question, pourquoi sommes-nous tant amenés à dire ben, « nous ne sommes pas comme les autres »
Alors, bon,
vous êtes éditeur.
Oui, dans cette différence historique, finalement, qui renvoie à nos différences personnelles, je crois que chacun apporte son écu, chacun apporte son tribut, par rapport à l'appel que sa conscience peut reconnaître. Qu'il y ait un peuple et des prêtres, c'est sans doute la volonté de consacrer de manière plus spécifique ceux qui vont véritablement, le mot est explicite, consacrer leur vie à Dieu, prioritairement, sinon exclusivement. Et puis il y a ceux qui vont apporter une contribution personnelle, librement consenti, bien sûr, dans le cadre de leur emploi du temps, de leurs choix, de leurs convictions, de leurs autres engagements. Chacun peut contribuer, à des degrés différents, à gravir les pentes d'une montagne qui nous élève jusqu'aux cieux. Il y a les professionnels et il y a les amateurs, mais les amateurs, Dieu jugera, peuvent s'avérer à la fin de leur parcours d'excellents et de brillants professionnels.
Donc là, les convictions, c'est ce qui peut nous ouvrir à une forme de transcendance, à une recherche d'un sens pour notre vie et peut-être sens pour la société.
Je crois que d'abord la parole est ouverte et il est pour moi certain qu'à l'apparition de la conscience dans l'histoire de l'humanité, sinon même de la conscience la plus intime vécue personnellement, on a l'affirmation, oui, d'une vérité profonde de la naissance, de la mort et de la finitude, mais dans un monde qui nous paraît à la fois familier et étrange, par les événements qui nous bouleversent, qui nous secouent. Nous parlions il y a encore quelques instants du coronavirus. On semble découvrir les mystères et la puissance de la nature. Mais dans l'apparition de cette conscience, de cette ouverture, de cette béance qui frappe à la porte de Dieu, dans l'histoire des religions, religion vient à la fois du latin religere, croire, et religare, relier. Il y a cette volonté finalement d'unir notre solitude et notre angoisse devant l'effroi de la mort, de la souffrance, devant l'étrangeté même de la vie, et de relier cette solitude à un tout qui serait beaucoup plus familier, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus accueillant. Et il est probable que le christianisme fasse le lien entre la solitude reconnue absolument par la raison, une solitude qui ne peut pas tout, qui affirme sa limite dans sa puissance d'efficacité et de résultat, et puis la capacité finalement que nous soyons nimbés de lumière le moment venu après notre mort, et que notre conscience soit éblouie par les lumières célestes qui apaiseront définitivement et éternellement une angoisse à proie à l'errance et au doute et à la recherche absolue que vous évoquiez.
La béance, l'angoisse, c'est ce qui touche chaque individu personnellement, mais au niveau de la société, au niveau de l'histoire, de cette économie du salut, qu'est-ce que vous pensez d'une... Y a-t-il une évolution, comme le dit Teilhard de Chardin, vers un point oméga qui attirerait, ou comme dit saint Paul, toute chose dans cette société qui est en gestation, ou qui accouche peut-être, même si on ne le voit pas?
Je me souviens d'une lecture d'Edgar Morin qui déclarait il y a quelques années que nous n'en étions qu'à la préhistoire de la conscience humaine. En revanche, je crois que depuis finalement les Grecs et depuis l'avènement du christianisme, il y a les deux voies de la raison pragmatique, de la raison qui émet des hypothèses, qui conduit des expériences et valide une vérité préétablie, donc dans une efficacité. La science nous dira toujours comment ça marche. Elle nous dira rarement pourquoi ça marche. C'est-à-dire la raison ultime, la raison première qui justifie, c'est du domaine, finalement, de la conviction intime, de la religion. Ça n'est pas prouvé. Le bien suprême ne tombe du ciel qu'avec Jésus, finalement. Après, il faut quand même s'accorder au principe de la raison. Mais raison et foi, raison et espérance conduisent véritablement vers un point oméga, comme le disait très justement Teilhard de Chardin, vers une félicité absolue, qu'il y ait, et je crois que l'espérance, c'est-à-dire la possibilité de penser dans le présent quelque chose qui n'existera que dans l'avenir. Ça, c'est typique de l'esprit humain qui fait un aller-retour constant entre présent, mémoire du passé, qui est un creuset finalement d'expérience. Nous parlions tout à l'heure de la Bible, des grands textes qui sont parvenus jusqu'à nous, dans cette diffusion, dans cette transmission, et que finalement, l'espérance, effectivement, parce qu'il y a toujours, en permanence le problème tenace de la souffrance, de l'angoisse, des larmes. Lisons le livre de témoignage de la chapelle multiculte de l'Institut universitaire du cancer où j'ai travaillé. Lisons les témoignages, les écrits des mères, des pères, des enfants, des frères et des sœurs pour leurs amis ou leurs familles hospitalisées. Et lisons les ex-voto d'il y a un siècle ou deux. Rien n'a changé, ni il novi sub sole, dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. En revanche, l'espérance, qui est bien plus étendue, bien plus vaste que l'espoir, l'espoir connaît son objet, l'espoir connaît sa limite dans le temps de réalisation, mais l'espérance, c'est bien plus grand, c'est bien plus intime, ça va au-delà. Et je crois que dans la notion de progrès, même matérialiste, l'idée des Lumières du XVIIIe siècle, avec finalement l'émancipation politique de la raison et de la citoyenneté par rapport aux dogmes de l'Église et aux serviteurs de Dieu, on a substitué au salut, au paradis, un progrès matériel. Mais c'est toujours pour penser que l'être humain a la capacité de s'extraire de sa terre de labeur, de sa terre de labour, de sa terre de souffrance et de fatigue et d'angoisse pour les siens, pour lui-même, parvenir à un bonheur, c'est-à-dire à une heure bonne pour surmonter le malheur qui est l'heure du mal, la mauvaise heure. Et bien entendu, ce point oméga, il y a un mot dans la langue française qui vient de loin, c'est le mot désir, qui vient de Sidus Sideris, l'étoile, et le désir, c'est justement être privé de l'étoile. C'est pour ça que nous désirons, au-delà de nos besoins physiologiques, le désir va bien au-delà, il va jusqu'à l'éternité, dont l'anagramme parfait est le mot étreinte.
C'est pour ça que vous avez choisi pour la plage musicale ce magnificat qui est de rendre grâce à quelque chose ou à quelqu'un qui nous dépasse.
Oui,
vous allez l'entendre.
J'ai choisi.
Vous allez le commenter.
Je commenterai le choix de cette musique.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Marc Bradfer. Merci Marc, vous êtes, pour ceux qui prennent l'édition en cours de route, directeur de...
Éditorial.
Éditeur aux éditions
Empreinte.
Et vous venez nous parler de votre foi, de vos convictions. Pourquoi vous avez choisi ce Magnificat? Quelle est la phrase qui vous parle le plus? Hors micro, on avait dit « Deposuit potentes de sedes ». Il a déposé les puissants de leur trône. Et c'est politique. Et en même temps, C'est de la poésie et c'est le chant sacré.
Poésie vient du grec créer. Et ce Magnificat, je l'écoutais déjà jeune adolescent. C'était ce disque avec la cantate numéro 31 de Pâques de Jean-Sébastien Bach, qui était un des quelques disques que mes parents possédaient. Et je l'ai écouté, le Magnificat, des dizaines de fois. Pourquoi j'aime particulièrement l'ouverture ? Parce que c'est la parole de Marie. Marie, c'est le premier être humain qui reçoit, qui est fécondé par l'Esprit-Saint, finalement, qui reçoit la proposition, l'alliance de l'ange, que lui tend l'ange Gabriel. C'est une femme, parmi les femmes. Ce n'est pas un homme, mais elle va porter le destin et l'histoire du monde. Cette femme accompagnera bien sûr son fils jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau.
On n'est pas en pleine mythologie.
Je ne sais pas.
Dans les symboles.
Je ne veux pas savoir si c'est de l'ordre du mensonge, de l'illusion, de la fable, de la mythologie ou du symbole. En quoi une parole écrite, reçue jusqu'à aujourd'hui, me parle ? Est-ce qu'elle me parle de moi-même ? Ce n'est pas qu'elle doit me parler d'elle-même. Un texte n'est pas fait pour se lire lui-même. Il est fait pour être lu, il est fait pour être entendu, il est fait pour être critiqué, rejeté, contesté. Mais finalement, il est fait d'abord pour être accueilli, pour être reçu. Et ceux qui me parlent à moi, Marc Bradfer, qui entame le dernier tiers probablement de sa vie, c'est que cette parole me parle encore et elle me regarde. Donc ça me regarde, cette histoire. Et je lui donne le texte ressuscite par la lecture, au sens étymologique du verbe lire, par le choix que j'en fais, par ce que je prends. Comment les mots de cette femme Marie, dont le cœur est rempli d'allégresse, dont le cœur tressaille de joie, comment cette femme me parle et comment cet enfant, déjà dans son ventre, me parle également pour moi-même et pour les autres. Cette parole est revivifiée par la lecture. Après, que ce soit vrai ou faux, ça n'est pas là le problème. Ce qui compte, c'est la conséquence de la lecture d'un texte, c'est sa réception.
Et c'est porté par les institutions, par les églises.
Alors, bien sûr,
ça donne sens aujourd'hui.
Bien sûr, l'église est un moteur, mais un moteur qui peut se fatiguer, qui peut tomber en panne, qui peut s'échauffer même, qui peut avoir des défaillances. Mais ne confondons pas le moteur avec l'essence. L'essence, c'est le cœur de l'histoire. C'est le cœur du message qui est envoyé et que je reçois, comme je le disais il y a quelques instants, aujourd'hui même. En quoi cette essence fait bouger le moteur, qui aura besoin d'être rafistolé, d'être réparé.
D'où sans cesse des réformes.
Mais bien sûr, mais parce que les êtres humains qui forment la voiture de l'Église qui se déplace jusqu'à nous, les hommes, les conducteurs, changent eux aussi et sont inscrits dans leur culture. Mais l'essence, l'énergie vient de ce premier message. D'ailleurs, il y a la parole d'un prêtre que j'ai bien aimé, qui vivait dans le quartier à la Patte d'Oie, non loin d'ici, le père Michel Favrel. Il était de la Mission de France, il travaillait d'ailleurs au standard téléphonique du SAMU dans les années 70-80. Et un jour, dans le cadre d'ailleurs des réunions du service Incroyance Foi, j'interroge mon ami Michel Favrel, qui était très contestataire à l'égard de l'Église, comme moi d'ailleurs. Et je lui dis, mais Michel, tu es resté dans l'Église et tu la critiques avec force, avec conviction et avec pertinence. Mais pourquoi es-tu resté dans l'Église ? Et là, il a eu cette parole sublime. J'ai vu ses yeux s'éclairer. Et après une ou deux secondes d'hésitation, il me dit, Marc, l'Église a les mains couvertes de sang, c'est vrai, mais c'est elle qui m'a fait connaître l'Évangile. Et finalement, la mission essentiel pour moi de l'Église, c'est d'apporter cette parole de Jésus, jusqu'à moi, jusqu'à nous tous, et après j'en fais ce que je veux. Après, je peux toujours être critique sur l'organisation, la gouvernance de l'Église, ses décisions. Mais finalement, sa principale mission, c'est de servir l'Eucharistie, de célébrer la vie du Christ et de célébrer cette histoire qui va participer peut-être de mon espérance.
C'est aussi la construction du royaume de Dieu. En tout cas, merci Marc d'être venu nous parler de votre foi, de vos convictions.
Merci Benoît Petit, merci.